et je vous retrouve pour Samedi Souvenir, donc samedi prochain. Et n'oubliez pas, je vous retrouve demain matin dès 9h avec Chantal pour Dimanche Bonheur, de 9h à midi, 1h d'accordéon et 2h de chansons françaises. Le rendez-vous est pris. Là, dans quelques instants, vous allez retrouver Polémix et la voix off jusqu'à 13h. Si vous aimez la musique Zouk, n'oubliez pas, à 17h, de 17 à 19, il y a le président de Radio G, Jean, avec Balade Intertropicale et la musique Zouk. Vous retrouverez, mais on en reparlera demain, vous les retrouverez Ambiance Soleil de 12h à 14h dès demain. Salut, à demain.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
L'enjeu, c'est la propriété. La propriété. C'est un combat de classe. La bourgeoisie se défend pour sa propriété. Quel est le danger ? C'est le socialisme est une atteinte à la propriété. La propriété bourgeoise, la propriété du capital, du patrimoine.
Liberté, égalité, propriété.
Article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un bien inaliénable.
Sacré, sacré. Que le bourgeois soit monarchiste, bonapartiste, soit légitimiste, peu importe. Tous sont attachés à cette chose sacrée qui est le Grisby. Touche pas au Grisby. Touche pas au Grisby, voilà.
Salut tout le monde et bienvenue à vous dans le quatrième épisode de cette histoire des droites en France. Toujours avec Cédric Delaunay et André Lécole, nos amis professeurs agrégés d'histoire. Un quatrième volet qui survolera aujourd'hui la période s'étalant de 1852 à 1914, du Second Empire jusqu'à la Première Guerre mondiale. Salut Cédric.
Salut.
Salut André.
Bonjour à tous.
On a démarré en 1789, la Révolution française. On est passé par le coup d'État de Napoléon, Restauration, Louis XVIII en 1814, Charles X, son frère, 1824. Une révolution en 1830, les Trois Glorieuses, qui met Louis-Philippe, roi des Français, c'est ce qu'on appellera la monarchie de Juillet, sur le trône. Une deuxième république en 1848, qui va jusqu'en 1852. Le Second Empire, 1852-1870. Une valse de régime et d'empire. Je suppose que les Français, les contemporains, ont peut-être aussi beaucoup de mal à suivre.
Oui, parce qu'il y a un vrai débat, justement. On est en plein dans notre réflexion sur les droites et sur les gauches. En France, on a un paysage politique extrêmement complexe, multiple, qui naît de la Révolution française, de l'acceptation et du degré d'acceptation ou de refus variable selon les familles politiques de ce que doit être les institutions, la société, la place de la religion dans la société, alors que dans le monde anglo-saxon, il y a un relatif compromis, voire un compromis global sur toutes ces questions-là. Donc l'arrivée au pouvoir de Napoléon III et la mise en place donc du Second Empire est une période de compromis entre les droites monarchistes et la droite bonapartiste. Les droites monarchistes n'ont pas la possibilité de réinvestir la place publique et donc laissent faire Napoléon III en espérant à terme le contourner. C'est une période importante parce qu'elle conduit à la marginalisation des républicains modérés qui avaient en 1830 et 1848 essayé de faire quelques compromis avec les monarchistes modérés, hein, les orléanistes. Et là, ils se retrouvent déportés dans l'opposition. Alors quand je parle de déportation, c'est aussi des déportations physiques, hein, l'exil pour certains, la déportation en Algérie pour d'autres. Et au moins jusqu'en 1860, on a un empire très autoritaire dans lequel monarchistes, qu'ils soient orléanistes ou légitimistes, trouvent une certaine cohérence du régime. Ensuite, les choses vont évoluer dans la deuxième partie du Second Empire, entre 1860 et 1870. La question sociale devient une question importante. On est en période de progression économique, urbanisation, développement de l'industrie, et la menace socialiste, puisque les socialistes s'organisent pendant cette période avec la Première Internationale, menace l'équilibre politique du pays.
Républicain, socialiste, compagnon radical, ultra, révolutionnaire, anarchiste, etc., etc. Aussi je vais dans tous les métingues, jamais je ne rate une réunion. Et je passe mon temps chez les manzingues, où se comprêche la révolution. C'est vrai que je comprends pas grand-chose à tout ce qu'ils disent les orateurs. Mais je sais qu'ils parlent pour la bonne cause et qu'ils tapent sur les exploiteurs. Pourvu qu'on chine le ministère, qu'on engueule trop mal et de tort, et qu'on parle de tout foutre par terre, j'applaudis d'achat et de tort.
Napoléon III est tenté par une forme de compromis. Par exemple, en 1864, il accorde le droit de grève et commence à ouvrir les institutions en permettant des élections, non pas libres, mais qui permet d'ouvrir les assemblées à des députés républicains qui portent une voix quelque peu différente. Et là, on voit l'inquiétude des monarchistes extrêmement rétifs à cette évolution du régime.
Le Second Empire est une période d'expansion, d'explosion du capitalisme financier, bancaire, etc. C'est l'époque de la naissance des grandes banques, Société Générale, Crédit Lyonnais. Et la grande banque fait son apparition sur le théâtre de la politique. Tout ceci est raconté admirablement dans le roman L'Argent de Zola, qui a des accents très actuels. Hein. On y retrouve la spéculation capitaliste d'aujourd'hui, hein, avec quelques différences sans doute, mais enfin, c'est globalement à peu près la même chose.
Si on veut résumer, la première partie du Second Empire, 1852-1860, c'est plutôt une alliance des droites monarchistes et de la droite bonapartiste. Et à partir de 1860, on voit comment Napoléon III se tourne vers les républicains modérés, vers des milieux bourgeois plus libéraux dans tous les sens du terme, et notamment dans lequel figure une forte minorité de protestants et de juifs, ce qui inquiète les légitimistes qui ont toujours une vision d'une France catholique. Et il voit d'un très mauvais œil, dans l'entourage de l'empereur, se multiplier des juifs, des protestants, qui, justement, poussent Napoléon III, j'allais dire, peut-être sur une pente naturelle, car dans sa jeunesse, il avait écrit un livre sur l'extinction du paupérisme. C'est un personnage qui est assez ambigu, assez complexe, Napoléon III, et qui n'est pas du tout monolithique, conservateur, anti-libéral, etc. C'est un personnage, justement, qui est évolutif, et ça déplaît extraordinairement aux droites légitimistes et orléanistes qui, jusqu'en 1860, avaient accepté un certain compromis avec les bonapartistes. En 1870, le Second Empire s'effondre brutalement suite à la défaite contre la Prusse, et cette défaite conduit à la création de la Troisième République, dont le sort semble compromis, j'allais dire, d'entrée de jeu. Le pays est envahi dans toute sa moitié nord, c'est un désastre militaire terrible, et Gambetta et les Républicains décident de poursuivre le conflit dans des conditions extrêmement difficiles. Finalement, les négociations s'engagent car la situation militaire est désespérée, mais Bismarck ne veut négocier qu'avec un gouvernement élu légalement, fruit d'élections, et non pas d'une bande de révolutionnaires qui ont pris le pouvoir comme ça. Et ces élections conduisent à un résultat qui semble annoncer l'agonie de cette Troisième République à peine née, puisque les monarchistes gagnent très largement les élections législatives et remportent des scores impressionnants dans toutes les campagnes, notamment. Leur problème, c'est qu'ils sont divisés entre légitimistes et orléanistes. Ces deux familles politiques sont majoritaires à la nouvelle assemblée législative qui se met en place en février, sauf qu'ils sont extrêmement divisés sur la nature du pouvoir à construire et sur la personne à mettre sur le trône de France.
Alors les légitimistes, plutôt les descendants de Louis XVI, les autres veulent plutôt un Orléans.
Voilà, un Orléans.
Les deux factions sont monarchistes.
Les deux factions sont monarchistes, mais est-ce qu'on met une monarchie constitutionnelle en place pour les orléanistes, ou est-ce qu'on met une monarchie absolue, ou bien du moins qui ressemblera pour les légitimistes. À côté de ça, les bonapartistes ne font pas un score ridicule. Hein. Ils ont encore un petit groupe parlementaire montrant qu'il y avait une certaine nostalgie de l'Empire. Et les républicains sont très minoritaires, sauf dans les grandes villes. Et là, on voit le poids du monde urbain, du petit peuple urbain ouvrier, qui vote républicain dans toutes les grandes villes, Marseille, Lyon et surtout Paris. Alors à Paris, sont élus des républicains modérés, des républicains plus radicaux, Clémenceau par exemple, hein, qui est maire du 18e arrondissement, ou des socialistes. Et c'est dans le cadre du règlement de la paix en 1871, le traité de Francfort avec la Prusse devenue Allemagne, Deuxième Reich, que le pouvoir monarchiste fait des concessions jugées démesurées, puisque les deux départements alsaciens et la Moselle passent du côté allemand. Une amende est infligée, une amende de 5 milliards de francs or pour frais de guerre. Et, chose qui paraît peut-être anecdotique, mais les 350 canons qui sont sur la butte Montmartre, qui avaient servi aux Parisiens à se défendre contre les Prussiens, doivent être livrés. La prise effective de ces canons par le gouvernement monarchiste, alors mené par Adolphe Thiers, qui apparaît comme un homme de compromis, la prise de ces canons doit se faire au mois de mars. Sauf que l'opération militaire tourne au fiasco, la population parisienne s'oppose de façon virulente, ce qui va déclencher la Commune.
À la Commune de Paris, c'est un sursaut national, patriotique. Provisoire, celui qui s'est établi en septembre 1870 après la chute de l'Empire, l'abdication de Napoléon III. Ce gouvernement a une attitude plus qu'ambiguë. Il en même temps qu'il organise la défense, on envoie des ballons, on fait des armées pour essayer de repousser les Prussiens. Paris est mis en défense, et véritable place forte. Mais en même temps, on négocie en sous-main, parce que les milieux dirigeants, qu'ils soient d'ailleurs monarchistes ou républicains modérés, pour ces milieux, le danger ne vient pas de la Prusse, ne vient pas de l'Allemagne. Ils se sont tout à fait accommodés de la défaite, ou en tout cas, ils ont accepté la défaite. Le danger est un danger intérieur, un danger social. Ce qu'ils craignent, c'est la révolte sociale, à Paris en particulier. Et donc, ils sont pressés d'en finir avec l'Allemagne, d'obtenir un compromis, même désastreux, avec l'Allemagne, de façon à retourner leurs armes contre le danger de subversion sociale à Paris. L'armée française, qui s'est rendue un peu rapidement avec Bazaine et Napoléon III, elle est libérée par les Allemands, c'est elle, cette armée qui s'est rendue aux armées prussiennes, aux armées allemandes. Et c'est cette armée française qui va être chargée de réprimer la Commune, d'écraser cette tentative très particulière de révolte. Parce qu'en même temps qu'une révolte patriotique, c'est une révolte sociale, la Commune de Paris. La référence des communards, c'est 1792. En même temps qu'on défend la Révolution, on défend les frontières. C'est un combat doublement patriotique et politique. On se bat pour des idées politiques, de changement social, et en même temps, on se bat contre les souverains étrangers, qui sont confondus. Ce sont les paroles de la Marseillaise.
Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes.
Il y a beaucoup de jacobins parmi les communards. Il y a aussi beaucoup d'anarchistes et de socialistes. Juste un petit mot sur les socialistes. Les idées de Marx sont très peu répandues parmi les ouvriers parisiens. Pour l'essentiel, ce sont plutôt les idées de Proudhon. C'est un socialisme proudhonien en majorité. Et anarchiste aussi. Enfin bon, c'est souvent d'ailleurs la même chose. Et la Commune de Paris, ça va être un épisode tout à fait particulier. C'est la première tentative de révolution socialiste du monde occidental, du monde industrialisé, puisque les premières mesures prises par la Commune sont marquées par le sceau de ce discours socialiste. Elles sont des mesures sociales concernant le travail, le droit des locataires, etc. Enfin bon, il y a chez les communards l'idée de changer la société. Commune, disons-le brièvement, va être écrasée, durement écrasée, par l'armée de Versailles, du gouvernement provisoire, commandé par Thiers. Thiers s'est installé à Versailles et dirige les opérations de reprise de la ville de Paris contre le peuple parisien en armes. qui défend la Commune de Paris, etc. Bon, c'est dramatique, hein, c'est tragique, hein, il y aura des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts. Hein. Les Versaillais, donc l'armée française commandée par Thiers, ne va pas faire de quartier. Hein. La dernière semaine de révolte, en mars 71, est une semaine sanglante. Il y a beaucoup de morts, hein. On va enterrer les gens vivants, on va les fusiller, femmes, enfants, tous ceux qui portaient des traces de poudre étaient fusillés sans autre forme de jugement.
Il y a une forme d'unanimisme dans cette réaction qu'on peut qualifier de bourgeoise. Hein. Il y a une violence militaire et il y a aussi une violence de civils qui passe après les armées et on a des descriptions où on voit des bons bourgeois profaner les cadavres de communards de façon extrêmement brutale, avec des gestes qui rappellent la Saint-Barthélemy ou ce genre de choses, avec des enfants découpés, remis dans le ventre des femmes enceintes, enfin des choses absolument innommables. La condamnation, elle est aussi politique, et elle va refaire une forme d'unité des droites pour assurer la cohésion du nouveau régime, pour s'assurer que cette révolte sociale soit écrasée. La réaction, elle est aussi intellectuelle. Il y a une forme d'unanimisme des intellectuels français, Flaubert, etc., qui condamne, mais avec une virulence, mais terrifiante, ces communards. Le seul qui a un discours un peu ambigu, c'est Victor Hugo, qui appellera à la grande réconciliation des Français à travers son roman 1793. Mais c'est le seul, hein. Sinon, il y a une réaction bourgeoise, hein, pour mettre fin à cette révolte de la Commune. Ce qui est intéressant, c'est de voir avec quelle force les républiques, que ce soit la Deuxième République ou la Troisième République, matent le mouvement social dans une violence terrifiante, alors que les pouvoirs monarchiques, que ce soit Louis XVI, Charles X, Louis-Philippe, hésitent toujours à écraser les révoltes, ce qui va leur coûter d'ailleurs leur trône, et ils vont se faire renverser par une certaine mollesse de réaction face au mouvement de rue.
Il faut dire que l'enjeu n'est pas mince. L'enjeu, c'est la propriété. La propriété. Déjà en 1848, dont parlait Cédric, Thiers, avant la terrible répression de juin 48 du mouvement ouvrier, sort un petit bouquin financé par le patronat, un bouquin à un franc, une petite brochure qui s'appelle « De la propriété ». C'est un combat de classe. Hein. La bourgeoisie se défend pour sa propriété. Quel est le danger ? Le socialisme est une atteinte à la propriété bourgeoise, propriété du capital, du patrimoine, etc.
Propriété qui est un droit inaliénable, hérité de la Révolution française, hein, liberté, égalité, propriété.
Article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un bien inaliénable.
Sacré, sacré. En 1871, c'est la même chose, hein. De quoi est-il question ? De la propriété. Les communards ont le tort de vouloir attenter à la propriété, hein, puisque, par exemple, ils attentent à la propriété du propriétaire vis-à-vis du locataire. Ils ont décrété un moratoire des loyers. Ils commencent à s'en prendre à la chose la plus sacrée dans la société bourgeoise. Que le bourgeois soit monarchiste, bonapartiste, soit légitimiste, peu importe. Tous sont attachés à cette chose sacrée qui est le Grisby. Touche pas au Grisby. Touche pas au Grisby, voilà. La Commune de Paris, c'est un combat de classe, hein. C'est un combat entre les détenteurs de la propriété et les gens qui veulent y toucher, c'est-à-dire les prolétaires, hein, et les ouvriers.
Mais cette propriété, pour la bourgeoisie de l'époque, et peut-être d'autres bourgeoisies plus tard, elle est peut-être encore plus sacrée que la nation ou que la patrie, puisque finalement on est prêt à signer n'importe quoi avec les boches.
Absolument, ça c'est certain. Le danger pour la bourgeoisie, les classes possédantes, en 1870, c'est pas Bismarck, c'est pas la Prusse. Le danger, c'est la subversion, la révolution sociale en France. On va voir ça à plusieurs reprises, d'ailleurs, puisque en 1792, les émigrés, les aristocrates font appel à l'étranger pour recouvrer la monarchie absolue, etc., et les droits seigneuriaux, etc. Et en 1870, la bourgeoisie française va se servir de Bismarck et de l'armée allemande pour pouvoir réprimer la commune et protéger la propriété. Et en 1940, que fait la bourgeoisie française ? Elle se sert de la défaite de 1940 et de la présence de l'armée allemande pour réprimer le Front populaire, les forces qui représentaient le Front populaire et la subversion sociale.
Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout.
On me demande quelquefois, mais vous êtes socialiste? Moi, socialiste, jamais de la vie. Je suis social. Mais le socialisme, ça, c'est un système.
On y viendra plus tard, effectivement, à cette glorieuse époque où l'invasion allemande de 40 est saluée par certains comme une divine surprise, hein, puisque l'un des mots d'ordre de ce patronat et de cette bourgeoisie de l'époque, en 36, hein, c'était plutôt Hitler que le Front Populaire. Donc finalement, on peut se demander quand même qui sont les vrais bons Français, hein, puisque c'est un truc qui est beaucoup invoqué à droite, hein, le drapeau, la France, les bons Français, les mauvais Français.
À ce propos, le nationalisme va évoluer après la Commune. Jusqu'à la Commune, le nationalisme, le patriotisme, et c'est une affaire de gauche, essentiellement de gauche. Après la Commune, on voit le nationalisme se déplacer à droite. La droite va investir le domaine du nationalisme. Après avoir vendu, en quelque sorte, la France à Bismarck, la droite va se donner une apparence de nationaliste intraitable.
La césure, en fait, se fait vers 1875. 1875, c'est le dernier espoir de rétablissement de la monarchie. Henri V, enfin celui qui aurait dû être le cinquième, Henri de Chambord, échoue dans sa tentative de prise de Paris, car il est lâché au dernier moment par les orléanistes. Et 1879, ce sont des élections législatives qui marquent pour la première fois la victoire des républicains qui deviennent majoritaires à l'Assemblée nationale. Ce qui provoque la chute du président MacMahon, qui était un président monarchiste, hein, pour faire le tampon en attendant le rétablissement de la monarchie. Et à partir donc des années 1880, l'espoir de la restauration monarchique est plus ou moins abandonné. Et donc les thématiques de droite vont changer. Jusque vers 1880, la question de la nature du régime politique est la question prioritaire pour les monarchistes. Leur but, c'est de restaurer la monarchie. Pour les bonapartistes, jusqu'à la mort du fils de Napoléon III, il y a l'espoir de rétablir l'Empire. Ces deux espoirs s'effondrant, les problématiques de droite vont changer, et effectivement, le nationalisme devient la question prioritaire. Les monarchistes vont accuser les républicains de faiblesse vis-à-vis de l'étranger, de mettre en avant les droits de l'homme avant la patrie, l'individu avant la nation. Et le basculement final se fait avec l'affaire Dreyfus.
Toujours avec nos historiens Cédric et André, 1875, Henri de Chambord rate l'occasion de monter sur le trône. C'était la dernière fois que les monarchistes pouvaient escompter mettre un souverain à la tête de la France.
Oui, en 1875, la République l'a emporté. Enfin, le régime républicain l'emporte. Il l'emporte par l'adhésion de la grande bourgeoisie orléaniste, hein, si l'on veut, de grande bourgeoisie d'affaires, qui, bon, abandonne l'option monarchique parce que c'est trop compliqué, et opte pour une république conservatrice, évidemment. C'est, si vous voulez, le moment où la grande bourgeoisie accepte le suffrage universel. Pense que le suffrage universel n'est pas un obstacle à sa domination sur la République. Bon, on peut s'en accommoder, hein, je vous en ai parlé, et Jules Ferry pense que, bon, en s'appuyant sur les classes conservatrices rurales, on peut tranquillement continuer à imposer le régime de l'oligarchie financière au pouvoir. Ça ne pose pas de problème. Il va persister des monarchistes, ils n'ont pas disparu du champ social ou idéologique, ils sont encore très nombreux dans l'armée, les officiers de l'armée ou de la marine sont encore très royalistes, et ils ont l'appui de l'Église catholique, de la hiérarchie de l'Église catholique qui reste encore assez anti-républicaine pour une grande part d'entre elles, ils n'ont pas disparu, on va voir qu'ils vont faire leur réapparition justement avec le nationalisme et la droite extrême. Mais la République l'a emporté. Cette République, elle pose les bases d'un consensus politique, hein, qui va durer quand même assez longtemps. Hein. La Troisième République, c'est le régime le plus durable et qui a marqué sans doute le plus la France contemporaine. Ce sont les années 80 qui voient les grandes lois républicaines, hein, sur la liberté de la presse, la liberté d'affichage, loi des associations, élection du maire par le conseil municipal, enfin, loi scolaire également. Il y a un compromis qui s'effectue entre cette grande bourgeoisie opportuniste c'est-à-dire anciennement monarchiste et qui s'accommode de cette république du suffrage universel. C'est un compromis politique. La grande bourgeoisie lâche sur ses grandes réformes démocratiques et fait aussi une concession en matière religieuse. Cette grande bourgeoisie lâche sur la laïcité, de façon à ne pas lâcher sur le social. Ce sont de grandes lois de laïcité également qui sont votées à cette époque-là. Petit à petit, on va petit à petit vers une séparation de l'Église et de l'État qui va être consommée en 1905. Mais dès avant, dans les années 80, on institue une école laïque, républicaine. Ce sont des lois de Ferry. C'est une concession qui est faite de façon à ce qu'il y a une sorte de compromis politique. Cette République donc pose ses bases très solides dans les années 80, et cependant la fin des années 80 va être marquée par une crise de la République. Cette crise, c'est la fameuse affaire de Panama, en 1889. C'est un gros scandale financier. Aujourd'hui, on en connaît de bien plus considérables et de bien plus scandaleux. Ça fait moins d'émotion aujourd'hui. C'est comme si c'était un peu passé dans les mœurs, le banditisme capitaliste. Alors qu'à l'époque, ça va très très mal passer. C'est une compagnie qui a été fondée par Ferdinand de Lesseps, créateur de la Compagnie de Suez, qui va être à l'initiative du creusement du canal de Suez. Et là, cette fois-ci, on s'attaque au canal de Panama. Seulement, ça se passe très très mal. L'affaire est mal engagée. Et c'est un fiasco technique, mais qui va devenir un fiasco financier, parce que on a fait appel pour financer cette compagnie de Panama, non seulement à des placements de grosses sociétés financières bancaires, mais on a fait appel également à l'épargne populaire, la petite épargne, le petit bas de laine. La France, vous savez, c'est un pays où il y a une thésaurisation en or considérable. Chaque petit bourgeois a son petit bas de laine, etc. Et on draine cette épargne, une partie importante de cette épargne populaire, pour constituer une compagnie financière, la compagnie du canal de Panama, sous la présidence de Ferdinand de Lesseps. Et cette compagnie va se retrouver en face d'un grave problème. Elle va petit à petit être en faillite. Le chantier n'avance pas. Le tracé est mauvais. Les équipes de travailleurs sur place sont atteints de maladies, etc. Et bientôt, elle va devoir déposer son bilan. Mais malgré ce danger de déposer le bilan, on continue de faire appel à la petite épargne. Les souscriptions sont encouragées par des journalistes, par des hommes politiques qui engagent en quelque sorte leur renommée là-dedans. Alors qu'on sait que cette aventure va aboutir à une faillite, à un dépôt de bilan. En revanche, prudemment, les grosses banques retirent leur argent. Ça rappelle un peu le tunnel sous la Manche tout récemment. Les grandes compagnies financières retirent leur argent alors qu'on continue de faire appel. En quelque sorte, c'est l'épargne populaire qui va plonger, qui va payer la note du bilan financier catastrophique. Ça fait éclater une véritable révolte populaire. Ça va provoquer une remise en cause du régime. Un des personnages centraux de cette affaire, c'est le général Boulanger. qui a été ministre de la guerre, hein, prestigieux, le beau général Boulanger sur son cheval noir, etc. Et il va cristalliser ce rejet du régime. Alors c'est très curieux, le boulangisme, c'est-à-dire ce mouvement qui naît de cette contestation du régime, il agrège autour de lui des gens extrêmement différents. Il va y avoir des républicains radicaux, des anarchistes, des gens qui rejettent le régime d'un point de vue de gauche, et puis également des monarchistes vont se mettre dans ce... Ils y voient l'occasion de renverser le régime politique. Le général Boulanger serait un général putschiste, capable de renverser la Troisième République, ébranlé par ce scandale. En réalité, ça va faire pchit. Le général Boulanger est un pâle. C'est pas un homme politique, puis c'est un homme sans envergure. Il n'a pas l'envergure pour prendre la tête d'un mouvement comme ça. Le régime est assez solide pour s'en débarrasser. On l'éloigne, etc. On lui fait croire qu'on va l'arrêter. Et puis il s'enfuit en Belgique, où il va se suicider sur la tombe de sa maîtresse. Enfin bon, c'est quelque chose d'assez minable. Mais cette crise politique, elle annonce la grande crise de l'affaire Dreyfus. Elle est une sorte de prodrome de la constitution d'une droite extrême nationaliste qui se prétend ni droite ni gauche, etc., qui est très anti-parlementaire. C'est le début de l'anti-parlementarisme et d'une contestation radicale du régime républicain, qui va bien sûr être essentiellement instrumentalisé par la droite monarchiste, évidemment.
On y retrouve l'anti-parlementarisme, une certaine xénophobie, une sorte de proto-fascisme. Zéa Chernel voit dans le personnage de Boulanger, certes un échec politique dans son renversement de la République, mais il pose les bases pratique, parce que c'est pas un homme d'idéologie, il a pas écrit de livre, etc. Mais de façon pratique, il jette les bases de ce que sera le fascisme plus tard. Il y a une autre crise aussi, qui naît, des scandales de Panama, etc. C'est la crise anarchiste. Extrêmement violente, puisqu'elle finit par l'assassinat du président de la République, Sadi Carnot, en 1894. Conduit le Parlement, alors républicain, libéral, donnant les libertés publiques, etc., à voter les lois scélérates. C'est quoi? Bah, c'est une grande union des députés monarchistes, de tous bords, bonapartistes, et de la droite républicaine, qui fait voter des lois, qui remet en cause la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion, si vous êtes anarchiste. Et là, on voit une grande réunion très réactionnaire et qui utilise la violence la plus extrême, la violence policière, contre tous les groupements anarchistes, même ceux qui avaient condamné la violence vis-à-vis des hommes politiques, puisque l'attentat contre Sadi Carnot n'était pas un attentat isolé. Il y avait eu d'autres actions violentes, notamment une bombe qui avait éclaté au Parlement.
À chaque coin de rue, le travailleur sourit. Sur l'affiche se rue des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette Floch et de Constance sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventru congresse, le suffrage universel, vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Géraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitants de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est un pègre, mais le populo leur dit. Gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette Floch et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Même des socialistes, membres de comités, soutiennent les fumistes qui se portent députés. Y a pas à s'y méprendre, qu'ils soient rouges, bleus ou blancs. Il vaudrait mieux les pendre que leur foutre 25 francs. Tu leur paies des ripailles, toi peuple souverain. Et lorsque tu travailles, à peine as-tu du pain. Ne sois non plus si bête, au lieu d'aller voter, casse-leur la margoulette, puis tu pourras chanter. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette Floch et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. De toute cette histoire, voici la conclusion. L'électeur, c'est notoire, n'a pas toute sa raison. Je n'aime pas le fataliste, je n'ai ni foi ni loi. Je suis abstentionniste, ami, voici pourquoi. Gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette Floch et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement.
Plus de gouvernement, Marc Augeret, sur l'album Chanson contre.
Survol d'une histoire des droites françaises, toujours avec nos amis André et Cédric. On évoquait à l'instant l'épopée du boulangisme qui préfigure, tu le disais André, l'affaire Dreyfus qui éclate en 1897. Alors très rapidement, l'affaire Dreyfus, un officier français, Alfred Dreyfus, est injustement accusé d'être un traître à la solde de l'Allemagne, avec des preuves qui seront falsifiées. L'affaire démarre en 94, tu disais, mais éclate en 97, et les camps déjà dressés par l'affaire du canal de Panama ressurgissent lors de cette affaire Dreyfus.
L'affaire judiciaire de Dreyfus devient l'affaire Dreyfus à partir de 1897-98, à partir du moment où un certain nombre d'auteurs, de journalistes, notamment l'Aurore de Clémenceau, mettent en évidence les trucages des preuves, le dossier vide qui a servi à accuser un innocent. Et là, il y a une ligne de partage qui va se faire entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard. Cette ligne de partage va recouvrir l'ensemble de la société, pas seulement la sphère intellectuelle. La grande question, elle est la suivante. Peut-on condamner un homme, même si on sait qu'il est innocent? La plupart des anti-Dreyfusards savent qu'il est innocent. Mais, au nom de la préservation de l'honneur de l'armée, de l'État, de la puissance de la France, on ne peut pas faire éclater l'affaire. Et donc, les Zola, etc., qui accusent tous les généraux, Mercier, du Paty de Clam, etc., sont des traîtres à l'idée nationaliste, sont des traîtres à la France, c'est l'anti-France. Et l'affaire, en fait, amène à la mise en place de deux camps, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Et justement, il y a une droite qui se reconstitue, là, cette droite anti-Dreyfusard, qui prend les accents très modernes, qui n'existaient pas avant, de la xénophobie, de l'antisémitisme, et qui reprend l'anti-parlementarisme boulangiste, et va le porter à son summum. À côté de ça, les Dreyfusards vont être des républicains qui défendent les droits de l'homme, les libertés publiques, et on voit la gauche abandonner ce terrain du nationalisme qu'elle avait fait sien jusque dans les années 1870-1880.
C'est un problème fondamental de droit et de principe qui va diviser au départ les deux camps. Et ça se passe à l'intérieur de la bourgeoisie, au départ. Les Dreyfusards, au début, ne sont pas des révolutionnaires. Ils sont des républicains tout à fait fidèles à la République bourgeoise telle qu'elle s'est constituée. Ce qu'ils veulent, c'est que le droit l'emporte, le droit, la justice. Pour eux, il ne peut pas y avoir de République viable sans une fidélité au droit. Un innocent ne peut pas être condamné, sans preuve ou avec des preuves fausses. Ce serait mettre en cause la République elle-même. Les anti-Dreyfusards ont un point de vue complètement différent. Pour eux, l'armée, la France, la patrie, doit être au-dessus de ces considérations de droit, etc. Et ça va au-delà, hein. Il va y avoir cristallisation dans le camp anti-Dreyfusard de toute cette extrême droite qui s'est déjà manifestée dans l'affaire de Panama avec le boulangisme. Et cette droite voit l'occasion de récupérer l'opinion publique, une opinion publique populaire. Et c'est eux qui vont faire les plus grosses manifestations, hein, au moment de le plus terrible de l'affaire Dreyfus. Les grandes manifestations sont des manifestations anti-Dreyfusardes. Ils y voient l'occasion de récupérer une quantité de sentiments qui existent dans l'opinion, de les exacerber. Hein. Opinion patriotique, nationaliste, mais aussi opinion xénophobe, antisémite. On récupère ce vieil antisémitisme qui existait dans la société catholique française pour le réactiver, en quelque sorte. C'est l'époque où Drumont sort son livre sur la France juive, etc., et où il y a un complot étranger, un complot juif contre la France, hein, et les vrais Français, les vrais patriotes doivent combattre ce complot, et l'affaire Dreyfus est l'occasion pour eux de récupérer toute une partie de l'opinion publique, y compris l'opinion publique populaire. Au départ, la gauche, d'ailleurs, est assez ennuyée, les socialistes pensent que c'est une affaire entre bourgeois, et on voit ça très bien dans Monsieur Bergeret à Paris d'Anatole France, où il discute avec son menuisier, Monsieur Bergeret, et il essaye de convaincre ce menuisier qu'il est important que les socialistes prennent parti dans l'affaire Dreyfus, pour Dreyfus, et que c'est une question importante, y compris pour la classe ouvrière. La classe ouvrière ne pourra pas faire un combat juste, un combat de fond, si il lâche sur ses principes, qui sont des principes de justice et de droit. Et effectivement, d'ailleurs, les socialistes vont finir par, plutôt, voir quand même le danger d'extrême droite. Le noyau du dreyfusisme ne sera pas dans le Parti Socialiste. Il est dans une droite républicaine libérale, à part quelques personnalités. Bon, bien sûr, les socialistes sont plutôt dans le camp des Dreyfusards, des camps de la République. Et une partie des socialistes sentent bien qu'ils ont intérêt à défendre les acquis de la République de façon à aller plus loin. Et qu'il serait extrêmement dangereux de laisser l'affaire Dreyfus sans leur participation. Mais au départ, ce n'est pas ça. Au départ, c'est une question de principe à l'intérieur d'une république bourgeoise.
On le rappelle à l'occasion, Alfred Dreyfus était parfaitement français, excellent officier et juif.
Oui, il fait partie de la bourgeoisie juive alsacienne. Les juifs issus de l'Empire allemand étaient nombreux en Alsace. Ce n'était pas un révolutionnaire, Dreyfus, c'était un officier extrêmement fidèle à la République, un homme droit, etc. Mais sa nature de juif a cristallisé l'antisémitisme de l'extrême droite française à cette époque-là. Et il a été la victime des circonstances. Il a payé durement, hein. Son séjour à l'île du diable a été terrible. Et il était innocent. Et chose extraordinaire, l'armée, les anti-Dreyfusards ont soutenu Mordicus jusqu'à la fin. Le vrai auteur du bordereau, c'est-à-dire le vrai traître, un homme dépravé, Esterhazy, descendant d'une famille de noblesse hongroise, un macro, hein, il avait des intérêts dans un bordel, enfin c'était un joueur, une crapule, mais c'est lui qui était l'auteur des bordereaux qui était adressé à l'ambassade d'Allemagne. Il était soutenu par l'armée, hein, et les anti-Dreyfusards n'ont pas été très regardants sur les procédés contre ce pauvre Dreyfus.
Décidément, la droite française doit beaucoup à l'émigration hongroise.
Oui, je n'avais pas fait le rapprochement, mais tu as raison de nous ramener à une actualité triste, en effet.
Et aussi une réflexion, on a l'impression que cette droite se constitue aussi en suiviste et en fonction des événements historiques. La droite suit, s'adapte. Elle n'est pas moteur dans cette histoire.
Non, elle subit l'histoire institutionnelle, c'est-à-dire que les Français se rallient progressivement aux institutions républicaines, et ensuite il faut qu'elle retrouve un autre terrain sur lequel combattre. Alors ça va être la question de la place de la religion à la société, la question laïque, hein, et cléricale est une question centrale dans la définition des opinions politiques. C'est aussi la place de l'État, hein, dans la société, la place de la fiscalité qui progressivement devient une thématique de droite à la fin du 19e siècle, au fur et à mesure qu'elle abandonne ses prétentions à changer la nature du régime. Pour une frange de la bourgeoisie qui s'était ralliée à la République, hein, bon gré mal gré, dans les années 1880, l'affaire Dreyfus est un tournant essentiel. Elle est tentée par deux choses. Si elle bascule du côté des anti-Dreyfusards, c'est pour défendre la nation, la vision d'une société catholique, hein, traditionnelle, hein, qui serait menacée par tout un tas de germes étrangers, juifs, etc. Donc elle peut être sensible à ce discours-là. Mais si elle bascule dans ce camp-là, c'est renoncer à des principes fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à savoir les articles 6 et 7. L'article 6 sur la liberté de l'individu et l'article 7 sur la sûreté de l'individu. Et pour toute cette bourgeoisie libérale, remettre en cause ces acquis de la Révolution française qui ont été transcrits dans le droit par la Troisième République, c'est abandonner une partie de ses convictions profondes. Et justement, on va la voir basculer d'un côté ou de l'autre, à savoir qu'est-ce qui prime, sauver un individu d'une décision injuste ou sauvegarder la puissance de l'État, de la France, qui serait menacée par je ne sais quel germe étranger que constitue la juiverie internationale.
Oui, et il se pose le problème de l'armée. L'armée française à cette époque-là échappe un peu au droit commun. À l'intérieur de l'armée, le soldat n'est plus un citoyen. Ça a été dénoncé par Jaurès en particulier, hein, mais à l'époque, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de droit à l'intérieur de l'armée. Le soldat n'est plus rien. Clémenceau dira la justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique.
Elle sonne fort et faux.
Elle sonne fort et faux. Il n'y a pas de justice. Les tribunaux militaires sont des parodies de justice. Et on retrouvera le même problème en 14-18, hein, au moment des révoltes de soldats, des mutineries, des trucs comme ça. Le soldat n'est plus rien. Une fois en caserne, il a perdu ses droits de citoyen. Ah, et donc, il s'agit de savoir si l'armée est au-dessus de la loi. C'est quand même un véritable problème républicain, ça. Dans la République, l'armée doit obéir aux politiques. Et là, il semble que l'armée veuille s'émanciper. Sous l'affaire Dreyfus, l'armée, elle a ses affaires. Vous n'avez pas à venir fourrer votre nez dans les affaires militaires. Et si vous atteignez l'armée, vous atteignez la France, sa capacité de revanche sur l'Allemagne, etc. Enfin bon, Dreyfus a été condamné par un simulacre de justice. Et ce que demande Zola, justement, c'est pour ça qu'il fait paraître son article. Il sait qu'il va passer aux assises. Il veut passer devant une véritable justice populaire, républicaine, etc. En fait, on lui refusera, hein. L'affaire ne doit pas être évoquée. Ça a été aussi un simulacre de jugement, celui de Zola, puisqu'on lui a interdit d'évoquer le fond de l'affaire, qui était l'affaire Dreyfus. Ça a donc été aussi une atteinte aux droits républicains. L'innocence de Dreyfus va être reconnue. En fin de compte, le parti Dreyfusard va l'emporter. C'est-à-dire qu'on va faire la preuve, et puis dans les milieux dirigeants de la République, on s'aperçoit qu'on ne peut pas complètement couvrir l'armée et l'injustice comme ça, et bon, le progrès des radicaux à cette époque-là, des républicains les plus radicaux, va finir par l'emporter et conduire à un nouveau procès, à une réhabilitation de Dreyfus. Les Dreyfusards l'emportent, les anti-Dreyfusards sont vaincus. C'est très important, parce que ça va également provoquer, évidemment, au niveau de la République, un glissement à gauche de la République. La République devient radicale après l'affaire Dreyfus.
Cette affaire Dreyfus est vraiment un tournant. Effectivement, la victoire des radicaux en 1902 montre que la France est majoritairement dreyfusarde. Elle a basculé dans la défense d'un individu et de principes fondamentaux républicains. Les anti-Dreyfusards sont vaincus, ils garderont ça en mémoire pendant très longtemps. Et en 1940 sera vu comme une victoire pour ces anti-Dreyfusards, une revanche. Cependant, il y a une petite nuance qui est très intéressante. En 1902, Dreyfus est gracié. Il est condamné une deuxième fois, mais gracié par le président de la République. Et au passage, tous les participants à cette affaire sont également tous graciés. C'est-à-dire que les Esterhazy et compagnie sont blanchis et toutes les poursuites sont terminées. Donc on voit des républicains qui essayent de jouer la conciliation, la modération, parce que les radicaux ont un autre objectif, c'est un objectif religieux. Et là, il y a une question sensible, 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Et là, on revoit une autre fracture ressurgir entre cléricaux et laïcs. Et le cléricalisme est un élément essentiel dans la construction idéologique des droites. Quelle place pour l'Église dans la société par rapport au savoir, par rapport à l'État? Et là, il y a une scission extrêmement brutale qui se fait. Et on a oublié aujourd'hui dans quel climat tendu se font les inventaires. Alors les inventaires, 1906, la République doit voir dans chaque église, dans chaque lieu dont elle récupère la gestion, quel est l'inventaire, tous les biens possédés par celui religieux. Et l'armée est obligée d'intervenir pour que les fonctionnaires de la République fassent leur travail, parce qu'ils sont harcelés par des cléricaux qui les attaquent physiquement. Et j'ai un ami qui avait fait sa thèse là-dessus dans l'Indre, et dans un petit village de l'Indre, le noblio local s'enferme avec le prêtre en haut du clocher avec des fusils et interdisent l'accès de l'église et tirent sur les gendarmes. Et c'est seulement au bout de 15 jours qu'on réussit à prendre d'assaut l'église et à déloger les deux troubles faites. Il chantait des cantiques et il tirait sur tout ce qui bougeait.
Allons, fils de la République, le jour du vote est arrivé. Contre nous de la noire clique, l'oriflamme ignoble est levé. L'oriflamme ignoble est levé. Entendez-vous tous ces infâmes croasser leur stupide chant? Ils voudraient encore, les brigands, salir nos enfants et nos femmes. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux.
La séparation de l'Église et de l'État en 1905 a été une loi très importante. Elle a provoqué des troubles extrêmement graves dans certaines provinces en France, mais elle a permis l'établissement en France, dans la République, de la laïcité, qui est un principe extrêmement fort, très important, et qui va devenir consubstantiel à la République. La République est laïque. Toutes les religions sont acceptées, protégées par la République, mais elles deviennent une affaire privée. Et la République, elle, comme régime politique, exclut toute référence, toute religion. Elle ne rémunère plus les prêtres de n'importe quelle religion. Elle se contente d'entretenir les établissements religieux où ils existent, hein, puisque c'est aux communes que revient l'entretien des églises, des temples, des synagogues, etc. Mais, en revanche, la République exclut absolument toute manifestation religieuse. Elle devient laïque, complètement laïque. Et c'est un principe qui est un principe, on peut le dire, assez révolutionnaire sur le plan institutionnel et sur le plan idéologique quand même. Ça va servir de modèle à une quantité de pays dans le monde. Et aujourd'hui, peu de pays sont des pays authentiquement complètement laïques, comme la France. certains ont adopté la laïcité, mais... Et alors, pour revenir à la droite, une partie de la droite accepte tout à fait la laïcité, hein. Bien sûr, Cédric a raison de dire que la droite française reste encore massivement cléricale, n'a pas fait le deuil de la domination de l'Église catholique. C'était tellement ancré dans les mentalités que l'Église catholique faisait partie de l'institution officielle du régime, quel qu'il soit. Et le fait d'exclure l'Église catholique a été quand même, pour cette droite-là, un traumatisme sur lequel elle a eu du mal à revenir. Et puisque Cédric parlait de 1940, hein, le régime de Pétain a été une réintroduction assez massive de la hiérarchie catholique dans les affaires publiques de la France à cette époque-là.
La veille de la Première Guerre mondiale, les droites françaises n'apparaissent pas comme profondément républicaines, comme adhérent au modèle républicain. C'est ce qui les marque. Et donc, on voit émerger des mouvements comme l'Action française, qui sont des mouvements monarchistes qui ont encore un ancrage assez important, notamment dans tout l'ouest du pays, et aussi dans une frange de la noblesse française qui a toujours des réseaux d'influence extrêmement important dans le monde rural, mais aussi dans le monde populaire urbain. Il y a tout un tas de contestations qui n'ont pas envie de s'exprimer dans les mouvements socialistes et anarchistes, même si l'anarchisme a été massacré à la fin du 19e par la République, et qui trouvent une voie dans le des formes de contestations monarchistes, notamment légitimistes.
C'est intéressant, l'Action française. Je n'ai aucune sympathie pour ce mouvement, mais il est intéressant sur le plan historique. Il est créé au départ par des hommes qui ne sont pas des monarchistes de tradition. Mistral était un poète provençal, plutôt athée d'ailleurs, hein. C'était même plutôt un positiviste, un adepte d'Auguste Comte, etc. Mais c'est pourtant lui, avec Pujol, qui vont créer d'abord une revue, et à partir de cette revue, un mouvement politique qui va être très influent, en particulier chez les étudiants. Étudiants en droit, étudiants en médecine, étudiants en lettres aussi. Ce mouvement a été illustré par des hommes de lettres très célèbres à son époque, dont le plus célèbre bien sûr a été Barrès, mais enfin beaucoup d'hommes de lettres, de poètes, etc., de musiciens ont été des gens proches de l'Action française. Alors ils se manifestaient par des manifestations estudiantines extrêmement importantes, violentes parfois. Ils étaient contre le régime. En fait, dans l'enquête sur la monarchie, Maurras entreprend de démolir les principes de la République. Pour lui, ce régime n'a donné rien de bon, et on aurait tout intérêt à revenir à un système héréditaire, monarchique, héréditaire. Il concède qu'il y a bien eu des rois qui étaient crétins, mais pas plus que de gens élus crétins. Ce que dit Maurras, c'est que le suffrage universel, à quoi aboutit-il ? À porter au pouvoir des gens médiocres ou des gens mauvais, etc., et au moins autant que le système héréditaire.
Une histoire des droites en France avec nos deux amis historiens Cédric et André. Voici en 1914, la Première Guerre mondiale et la trahison des socialistes qui se rangent dans les gouvernements bourgeois pour faire la guerre au lieu de mettre la crosse en l'air, André.
C'est en marge un petit peu de notre propos qui concerne la droite.
C'est une grande victoire de la droite que de voir les socialistes renier leurs idéaux pour aller faire la guerre.
Ah, c'est certain. Ça va être une grande victoire de la droite. La guerre va être une opportunité fantastique. Dans le même mouvement, la droite arrive à créer, en face de la guerre, maintenant inévitable, une union sacrée. Toutes les droites se rassemblent, et avec cette droite, une partie importante de la gauche, d'abord toute la gauche radicale, bien sûr, adhère. Cette guerre devient une guerre patriotique. Les radicaux, qui ont toujours maintenu l'héritage jacobin, comparent cette guerre aux guerres de la Première République, de la Révolution, et adhèrent entièrement à l'Union sacrée. Mais cette Union sacrée, elle est chapeautée par la droite. Alors, les socialistes, à la veille de 14, les dernières élections qui ont eu lieu ont donné un fort parti socialiste à l'Assemblée. Et ces socialistes, ils sont en face d'un dilemme. Ils sont en même temps, d'un côté, pris par les devoirs de l'internationalisme prolétarien, car après tout, ils font partie d'une internationale socialiste avec leurs camarades allemands en particulier, dont un des mots d'ordre, c'est prolétaires de tous les pays, unissez-vous. ils sont en face d'un choix. Il est vrai que lorsque la guerre éclate, les deux partis socialistes, français et allemand, vont tous les deux se joindre massivement à la guerre patriotique, chacun de leur côté. Ils vont s'asseoir littéralement sur leurs principes internationalistes et vont participer tous les deux à une guerre qui, malgré tout, est une guerre impérialiste, hein, entre impérialismes concurrents. Mais ça, c'est l'affaire de la gauche, hein. Si on revient à la droite réalise une excellente opération pour les besoins de l'union de tous contre le danger, danger de mort de la France. Tout le monde doit se serrer les coudes et on réalise une union sacrée. Et cette union sacrée, elle est très large. Elle va de la droite jusqu'au Parti Socialiste, qui va d'ailleurs participer au premier gouvernement sous la guerre. Hein, il y aura des ministres socialistes.
En 1914, le paysage politique, il est dominé par les républicains radicaux et les républicains opportunistes. Il y a eu certes une percée hein, du socialisme et une droite qui reste marginalisée parce que toujours soupçonnée d'être anti-républicaine. Or, le sentiment républicain est bien ancré en 1914 et on peut penser définitivement ancré. Et les droites apparaissent comme marginales, comme possible cheval de Troie d'une réaction monarchiste, qu'il revendique de façon plus ou moins ouverte. Alors, 1914, l'Union sacrée, c'est pour les socialistes, comme pour les gens de droite, une incroyable opportunité de montrer qu'ils sont républicains et qu'ils adhèrent au modèle, pensant en tirer peut-être un avantage politique pour l'après-guerre. Car s'ils refusent d'entrer dans la guerre, ils apparaîtront de façon définitive comme des traîtres. Et par calcul, alors la gauche va adhérer à l'Union sacrée, va y participer. Et ce conflit est aussi, par exemple, le moment hein, d'une rénovation religieuse extrêmement importante qui va profiter à la droite. C'est-à-dire que le sentiment religieux qui s'était quelque peu effrité hein, dans la société va renaître avec cette mort de masse hein, qui touche très profondément la France. Et on a un sentiment religieux du combattant hein, qui voit sa fin proche, qui, avec des vieux réflexes reptiliens qui lui disent que faudrait peut-être qu'il sauve son âme, les familles durement éprouvées par ces morts, qui se tournent vers le curé comme quelqu'un qui peut les soutenir dans cette épreuve difficile. Et il n'est pas surprenant de voir la droite, en 1919, la droite remporter les élections. C'est le bloc national de droite qui remporte les élections parce que il incarne la fidélité à la République, elle l'a prouvé, et des sentiments nationalistes exacerbés qu'elle avait depuis longtemps portés, en montrant que voilà, elle est là pour défendre la France et qu'elle a accepté la République parce qu'ils se sont battus pour la République. Se battre pour la France, se battre pour la République, tout compte fait est devenu synonyme, ce qui n'était pas le cas avant. Avant 1914, la droite se battait pour la France et pas pour la République. Et la Première Guerre mondiale a été le moment d'une adéquation entre la défense de la République et la défense de la France.
Ajoutons que aux élections de 1919, une chose va puissamment aider au triomphe du bloc de droite, c'est la révolution russe, la révolution bolchévique de 1917. En même temps que les arguments dont vient de parler Cédric, il va y avoir des affiches placardées partout en France, le bolchévique avec le couteau entre les dents, hein, le danger bolchévique. L'épouvantail bolchévique va jouer quand même énormément dans cette élection de 1919. Hein. En même temps que les arguments nationalistes, religieux, etc., il y a le danger d'une subversion bolchévique dans toute l'Europe. Et donc, bien sûr, il y a un déplacement de l'électorat vers la droite. C'est un véritable triomphe et la gauche perd. Hein. En 1919, hein, c'est véritablement une chambre bleu horizon. Beaucoup de gens qui se sont présentés ont fait la guerre dans l'uniforme de l'armée française qui était bleu horizon. C'est un triomphe de la droite.
1919, c'est aussi un renouvellement du personnel politique. Je crois que les 3/5 des députés hein, de la chambre bleu horizon n'étaient pas députés avant la guerre. Et il y a de nombreux anciens combattants qui ont gardé de leur expérience de guerre la nécessité d'obéir aux ordres, d'avoir un chef, un commandement. Au-delà du programme politique, hein, l'attachement à la propriété, la défense contre le bolchévisme, la volonté de créer un État fort, un État un peu autoritaire, d'orienter la République vers un régime plus efficace. Et il y a toute une nouvelle mentalité de droite hein, qui va se diffuser dans le personnel politique à cette époque-là. Il y a un véritable changement dans la vision de la politique, dans lequel les droits de l'individu, le droit de l'homme, sont secondaires face au destin de la France. Et c'est ce message-là qu'on retrouve dans l'opinion publique qui porte effectivement ces nouveaux députés anciens combattants de droite massivement à la Chambre des députés.
Et voilà les amis, c'est la fin du quatrième volet de cette histoire des droites en France. Prochain épisode de 1914 à 1940. À ne pas manquer. Salut,
terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G.
Just wanna tell you.
101.5 FM.
Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences.